Alors, je suis en visite pour aller voir French Acoustique. Qu'est-ce que c'est French Acoustique?
Eh ben, c'est une entreprise avec laquelle on fabrique une gamme de produits nomades. Donc, on fait que des produits sans fil. Notre produit phare, qui est juste derrière moi, qui s'appelle Proton, est une enceinte justement de la catégorie moins d'un kilo, moins de 300 euros, qui est la plus performante de cette catégorie-là. Et elle est 100% fabriquée en France, juste ici dans nos bureaux qui sont à
Made in France parce que French Acoustique utilise l'impression 3D pour fabriquer ses coques d'enceinte. Dans cet épisode de podcast, Janvier, l'informatique pour tous, Florian et Joey, les deux cofondateurs de French Acoustique, vont nous expliquer comment ils ont créé leur start-up dédiée à la création d'enceintes nomades, comment ils s'y prennent pour gagner de l'argent grâce à l'impression 3D et comment ils ont fait pour transformer un projet étudiant en entreprise. Il y a combien de machines? Je me rends pas compte.
18. Ouais.
18? Sacré investissement, non? Ça vaut combien une machine comme ça? 3D?
Alors, c'est des machines qui sont pas hyper chères parce qu'on
Ouais.
donc c'est des machines grand public comme l'a dit Joey, elles coûtent
Ouais.
environ 300 euros. Mais après, il faut savoir qu'on fait dessus le double d'investissement en termes de R&D et surtout d'amélioration parce que c'est pas très fiable quand on la reçoit et nous on la rend vraiment industrielle.
Ah, vous la customisez et
On la
tout?
customise,
Il n'y a
ouais,
plus
on a
grand
à peu
chose
près.
d'origine dessus.
Alors là, on voit les coques terminées et il faut combien? Une journée pour en fabriquer une?
Alors,
Une vingtaine d'heures.
voilà, 20 heures pour l'imprimer et après, en fait, 15 minutes sur le montage de l'enceinte, on est le même. Ouais.
Ce qui va intéresser les gens qui nous écoutent, qui vous regardent là en ce moment, c'est comment vous êtes passé d'étudiant donc à Polytech, à côté d'ici, Polytech Sofia, en start-upper finalement, entrepreneur. Il y a quand même pas mal de prises de risques.
Oui, bah effectivement, ce projet-là, il date d'il y a très longtemps. Il date de quand Florian avait même 13 ans. Il a commencé à faire des enceintes dans des boîtes à chaussures. Donc finalement, ça remonte pas mal. Après, effectivement, il a créé une auto-entreprise.
Ah, donc on peut démarrer micro-entrepreneur sans investissement au départ.
Exactement,
On peut
ouais.
faire ça, ouais, ça demande.
T'es resté longtemps micro-entrepreneur?
Ah, je suis resté un peu plus d'un an.
Ouais, c'est pas longtemps. Hein.
Non, c'est pas longtemps. Le truc, c'est que si tu veux, moi j'ai un diplôme en. J'ai une licence en architecture à la base. J'ai fait un DUT génie civil. Et donc du coup j'ai pas du tout un background d'électronique tu vois. Et en fait si tu veux j'ai monté cette startup parce que j'étais passionné de l'audio.
Ouais.
Je me suis vite rendu compte que quand t'es tout seul ça marche pas trop. Il y a beaucoup de portes qui te sont fermées parce que en fait la réalité c'est que quand t'es tout seul t'as 80% de chances d'échouer au bout de 3 ans.
Ok,
Et c'est
ouais.
vrai, on peut pas réussir à faire tout ça tout seul. D'ailleurs pendant un an j'étais tout seul et je passais 12, 13, 14, 15 heures par jour.
Mais ta micro-entreprise, tu l'as créée quand tu étais à Polytech?
Non, juste avant.
Avant, d'accord.
Juste avant. Et du coup, c'est pour ça, en fait, c'est parce que je passais trop de temps tout seul sur ce projet-là que je me suis
Ouais.
dit, il me faut un background dans cette technique-là, quoi. Il me faut un background en électronique,
D'où
il faut
les
que je
études
rencontre des gens.
d'ingénieur chez Polytech.
C'est ça, voilà. J'ai été confronté au choix de soit créer une vraie structure,
Ouais.
mais c'est difficile
Alors
de
c'est bien, t'as
rencontrer
pas
des
arrêté
gens.
tes études parce qu'il y en a certains qui se disent All-in, je finis pas mes études et je lance ma boîte. Tu t'es dit j'ai besoin d'un background un peu technique.
Je vois les études comme aussi une opportunité de rencontre. Et ça n'a pas
Ouais.
manqué, c'est là où j'ai rencontré mes cofondateurs. Et aujourd'hui, les études, je pense, enfin, ça donne certainement un background technique, ça c'est
Ouais,
sûr, mais
un
ça
réseau
donne aussi un
aussi.
réseau,
Ouais.
voilà. Et l'école a aussi à jouer une carte dans la réussite de French Acoustics. On a gagné des concours, on a gagné des bourses. Le projet, il a fait partie de projets d'école à la base.
Donc le projet existait avant que tu arrives à Polytech, tu l'as structuré avec tes deux cofondateurs,
En
c'est ça?
fait, ouais, c'est ça, on l'a repris ensemble en cours.
Ouais.
Alors de base, c'était pour de la practicité, on s'est dit super, on va reprendre ce projet-là pour faire un dossier, ça va être plus facile. Puis finalement, on est tous un peu tombés amoureux du projet enceinte.
Ouais.
Et en fait, on a construit petit à petit des vrais prototypes qu'on a ramenés à l'école, qu'on a confrontés en fait aux personnes qui étaient avec nous. Donc on était un petit peu les ovnis avec des enceintes, un petit peu comme on n'a jamais
J'ai
vu.
vu
Et en fait, ça s'est transformé en projet de fin d'études.
un.
Donc,
Ouais.
super opportunité pour nous d'être
Alors
accompagnés sur ce
pour
projet-là.
rappeler, Polytech, c'est quoi? C'est
Bah,
3 plus 4 plus 5, c'est ça? C'est
c'est
3
ça,
ans?
c'est 3 années d'école d'ingénieur qu'on
C'est
a
OK,
fait
c'est
toutes deux
l'école
en
d'ingénieur
alternance. Ouais.
qui est ouverte à tout le monde. C'est pas comme il n'y a pas de frais d'entrée exorbitants, donc ça.
Alors,
C'est une
non,
école publique.
voilà,
Public, ouais.
exactement.
Voilà. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Il faut un bac plus 2 pour entrer.
Et
Nous, on a fait
tu
une.
fais en alternance?
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Nous, on a fait une filière en alternance, donc ça
Ouais.
nous permettait de garder aussi un pied dans l'entreprise, un pied dans le monde
Alors,
professionnel.
vous bossiez alternant dans French Acoustique?
Non, alors
Non.
ça s'appelait
Non.
pas French Acoustics. J'avais juste une
Ouais.
micro-entreprise, donc elle n'avait pas de. Enfin, C'est une micro-entreprise, c'est en nom propre, hein, donc
Ok.
c'était juste voilà, un statut que j'ai fermé peu de temps après parce que ben j'ai arrêté de faire mes enceintes. D'ailleurs, t'en as une derrière toi, mais j'ai
Ouais.
arrêté de faire mes enceintes comme ça.
Ah ouais, celle-là.
Voilà, c'est l'ancêtre vraiment. Tu vois la bleue qui est juste derrière
Ah
la
non,
main là?
derrière le
Ouais.
carton, ouais.
Qui est pas imprimé en 3D celle-là.
Non,
Non,
alors
c'est
ça c'est
ça.
du vraiment du bois et ça prenait des heures à monter. Donc on a bien progressé depuis.
Mais
Mais
l'alternance, vous les avez fait dans des boîtes à part ou
ouais, carrément, bah ouais.
Oui, on avait chacun une entreprise en
Ah
fait,
ok.
voilà. Donc on était en cours, en alternance, et à côté c'était
Ah
le
d'accord,
projet
ouais.
perso au début.
Ok. Vous étiez pas alternant de votre
Non,
structure.
non, non.
D'accord, ok.
Non, non, on
Non,
était
non.
alternant Thalès, ST, Damien Schneider, on était
Ah, c'est bien, comme ça
dans des grands groupes, ouais.
vous apprenez potentiellement des méthodes de travail.
Carrément.
Ouais.
Ça nous a
Exactement.
vraiment inspiré. Alors pas au niveau des méthodes, parce que les méthodes de grandes boîtes sont pas compatibles avec ce
Ouais.
qu'on fait, mais au niveau de, j'ai envie de dire, du savoir en fait, parce qu'il y a quand même des mines d'or de savoir dans ces entreprises et on a beaucoup appris. Ouais.
Donc, à la fin des 3 ans chez Polytech, vous vous dites on se lance avec les trois, enfin entre trois cofondateurs.
C'est ça en fait, c'est la création du statut et de l'entreprise en tant que telle. Et en fait, au démarrage, pendant à peu près un an, tous les deux, on a été 100% en contrat. Donc, on avait trouvé
On était
une
en entreprise, ouais.
entreprise. Voilà, il a fallu qu'on vive en fait. Et
Ah
du coup, on
oui.
était en contrat dans un premier temps pour lancer l'entreprise.
Alors là, donc ça c'est un bon conseil. La première année, vous êtes diplômé, vous avez un contrat dans une boîte qui vous
Exactement.
permet de
En
vous
fait,
rémunérer.
ouais, mais je pense que la meilleure façon de faire, franchement, c'est de faire un crédit étudiant et de se lancer directement après les études.
Ah ouais?
La façon avec laquelle on a abordé la chose, c'est-à-dire on sécurise, on a un emploi, on regarde un
Ouais.
peu si ça marche. Avec du recul, maintenant, je me dis qu'on aurait été beaucoup plus vite et beaucoup plus loin
Ah, pour
en faisant un
accélérer.
crédit étudiant, parce qu'en fait, les crédits étudiants, c'est hyper avantageux. Enfin, on peut en profiter que quand on est étudiant. Et pour lancer sa boîte, il n'y a rien de meilleur, en fait. En
C'est
plus,
clair.
on est direct après les études, on y va, on est chaud. Alors que reprendre un taf dans une entreprise, moi, j'ai gardé l'entreprise que j'avais, j'étais encore à Thalès. Donc ça va,
Ouais.
c'était cool, j'avais déjà mes marques et tout. Mais Joey, il a commencé dans une nouvelle entreprise, il a dû reprendre tout depuis zéro. Voilà, ça laisse moins de temps pour se consacrer à son
Ouais.
projet.
Tu estimes que t'as perdu un an?
Ah, je pense qu'on peut pas dire vraiment qu'on a perdu un an parce
Ouais.
que on a continué d'apprendre des choses. On a fait passer ça en tant que projet personnel et on s'est beaucoup investi. On faisait des soirées jusqu'à 2-3 heures du mat pour terminer les trucs.
Ouais.
Et voilà, on a juste mis de côté une partie de notre vie personnelle pour pouvoir le faire quand même.
Donc un an après, vous êtes tous les trois cofondateurs à 100% dédiés à la boîte et là, vous n'avez plus de salaire. Comment on fait pour...
Ben c'est ça, donc au début on a eu des aides des ARE, tu sais, donc avec Pôle emploi, parce que comme on avait travaillé,
Ah bah donc
on a eu des
c'est quand
aides.
même un bon calcul d'avoir un premier job alors.
C'est vrai, mais finalement, je te jure que le crédit
Ouais.
étudiant, c'est encore un meilleur
Ah
calcul,
ouais?
parce que tu as des
Ok.
taux d'intérêt qui sont tellement bas et tu arrives à avoir beaucoup d'argent que tu peux investir en plus dans ton salaire à un taux très bas, plus ton matériel et tout, et tu as tout ton temps, tu as 100% de ton temps dès que tu finis tes études, c'est génial.
Ok.
Alors que nous, on a dû, comme je t'ai dit, travailler plus dur et surtout être beaucoup plus fatigué, donc avoir moins de temps pour notre projet. Du coup, pour revenir à ça, aujourd'hui, on se paye parce que les entreprises marchent, enfin, parce que AFA marche.
Ok.
Donc,
Avec la vente des enceintes.
avec la vente des enceintes, la location des produits qu'on a en pro, l'installation des systèmes Lines pour les pros, pour sonoriser des espaces comme des bars, des restaurants,
Ouais.
voilà, on se rémunère comme
Ah
ça.
ouais, c'est vachement bien. Alors vous adressez plusieurs marchés, le grand public, les professionnels, l'événementiel.
Ouais.
L'événementiel, ouais, on a fait 2 années de suite une scène aux plages électroniques de Cannes. On a sonorisé un événement sur 45 jours qui s'appelle Gare Croisette, ça a été un grand succès. On propose même des prestations, donc pour revenir sur le B2B, d'impression 3D. C'est-à-dire, toi, tu as besoin d'imprimer une petite pièce, je sais pas, pour ta voiture, pour un truc. On imprime des pièces, on a imprimé des modules pour des entreprises, on a imprimé des roues pour des remorques de jet ski, on imprime tout un tas de
Ok.
pièces comme ça.
Ok, ah ouais, donc vous faites de la diversification en dehors du cœur de votre activité qui est l'enceinte, hein,
Ouais,
parce que vous avez le savoir-faire de...
exactement, on a acquis un super savoir-faire dans l'impression 3D, que
Ouais.
ce soit grand volume ou petite pièce. Et en fait, on propose ces services-là lorsque notre parc est moins utilisé. Donc, pour continuer de rentabiliser ces machines, en fait, on propose ces services-là à des entreprises qui peuvent avoir besoin, ou des particuliers même, qui peuvent avoir besoin, ben voilà, de pièces imprimées en 3D. C'est toujours une très bonne solution.
Et sur le site internet French Acoustique ou il y a une autre porte d'entrée?
Il faut nous contacter pour ça.
Ouais.
C'est vrai qu'on ne le met pas beaucoup en avant parce qu'aujourd'hui, le parc, il est beaucoup exploité. Mais pour les gens qui ont des projets d'impression 3D, On est vraiment ouvert à ça. Il y a ma petite machine sur mon bureau. Il y a d'autres machines qui sont là-bas à très grand volume. On est assez flexible en fait. On est très réactif aussi.
Ouais, moi, j'ai jamais vu ça, une boîte comme la vôtre qui a décidé d'avoir une utilisation des imprimantes 3D en mode industriel, fabriquer ses produits. Je sais pas si ça existe.
Alors effectivement, c'est le premier produit audio sur le marché imprimé en 3D, si ce n'est un des premiers produits
Tout court,
vendus tout court, hein, parce que personnellement, j'en ai jamais vu encore sur le marché. On a fait ce choix-là pour plusieurs raisons. Déjà, ça nous a permis d'avoir un investissement moindre à l'entrée, donc d'avoir pas besoin d'investir des centaines de milliers d'euros en fait dans des machines ou dans des moules pour les enceintes. Et surtout, ça permet de fabriquer cette forme qui est assez atypique, qui vous permet tout ce que j'ai déjà cité tout à l'heure. Et en fait, l'impression 3D, il faut savoir que c'est aussi très économe, que ce soit en matière ou en énergie.
Alors, toi Florian, toi Joey, tu pourrais peut-être donner un conseil. On va démarrer par Florian. Quelqu'un qui veut se lancer dans un business d'impression 3D, alors pas forcément sur les enceintes, j'en sais rien, des coques, des coques de téléphone, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il doit faire et à quoi il doit penser pour notamment être rentable et pour vendre? Parce que c'est finalement ce que je comprends, c'est que vous êtes rentable et vous arrivez à vendre des quantités intéressante pour vous payer et payer les trois autres personnes qui travaillent pour vous.
Ouais, carrément. Bah, moi, ce que je préconise comme conseil, c'est de jamais arrêter de vendre, déjà. Il faut toujours facturer ses prestations. Quand on travaille, bah, tout travail mérite salaire. C'est une phrase qui porte bien son nom. Et du coup, on doit faire une prestation pour quelque chose en échange, même si c'est pas grand-chose. Mais au moins, ça donne de la valeur à ce qu'on fait. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est finalement, peu importe l'imprimante qu'on choisit, ce qui va compter, c'est la manière avec laquelle on va être capable de la paramétrer. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises imprimantes, il y a juste des bons et mauvais makers en vrai. Et je pense qu'avec même l'imprimante la plus pourrie, on peut réussir à faire un produit qui se vend. Nous, on est quand même parti avec des Under 3 qui sont l'imprimante de base à 200 euros et on arrivait à des produits vendables avec 200 euros d'imprimante. Donc pour ça,
Vous pouvez démarrer avec une seule imprimante 3D?
on peut, ouais. Alors tout dépend de la clientèle qu'on a, mais c'est sûr que si on veut fonctionner avec ben, une clientèle qui est fidèle et qui du coup va revenir et puis en plus qui va faire pas mal de bouche à oreille. Il faut avoir un petit parc, je pense qu'il faut avoir des imprimantes grand volume aussi parce qu'aujourd'hui c'est ça qui est demandé, des imprimantes grand volume. Mais ce qui va compter c'est la réactivité qu'on va avoir. Le client il reviendra toujours si même le week-end j'imprime sa pièce, voilà je lui envoie ses pièces
Ce
rapidement.
que tu disais tout à l'heure, c'est quoi, 2 3 jours de réactivité?
Pas plus?
Bah, nous, on est sur un
Ouais.
produit qui est disponible en ligne, qui est un produit tech complexe. Sur de la prestation d'impression 3D pure, on fonctionne vraiment en temps machine. C'est-à-dire, votre pièce, elle met un jour à imprimer. Venez dans un jour, vous l'avez. C'est instantané. Par contre, sur des produits où il y a besoin de montage, où il y a besoin de.
Ouais.
Voilà, ça, c'est différent. Mais je pense qu'il faut rester sous la barre des 5 jours parce que c'est vraiment la barrière psychologique qui fait que les gens achètent ou pas.
D'accord. Et toi, Joey, peut-être sur la rentabilité?
Oui, alors sur la rentabilité, en fait, il faut bien prendre en compte tout ce qu'on va mettre autour de notre prestation. Donc en fait, il va y avoir l'allocation de locaux, par exemple. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'espace ou peu d'espace? Se renseigner en fait autour de son réseau. Ça, il y a beaucoup d'aides en fait qui existent en France. Il faut vraiment se renseigner sur tout ce qui va être les bourses, les crédits,
Crédit d'impôt.
voilà. Donc, il faut se renseigner vraiment sur tous ces systèmes-là. En France, on est beaucoup aidé sur l'aspect finance en fait d'une entreprise. Il faut en profiter, il faut se faire un réseau, il faut rentrer pourquoi pas dans un incubateur, dans une pépinière de start-up pour pouvoir justement et rencontrer des gens et avoir des tarifs avantageux sur par exemple la location de locaux comme ceci. Donc, c'est quand même un gros avantage qu'on peut avoir. Le démarchage, c'est très important, la communication, la mise en avant. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut faire, prendre le temps d'aller voir les gens, de leur expliquer son projet, son produit, parce qu'on peut toujours faire des très bonnes rencontres, des gens qui peuvent être très intéressés ou connaître quelqu'un qui est très intéressé. Il ne faut pas négliger le réseau, en fait, et tout ce qu'on peut créer autour de soi en termes de communication.
D'accord. Et Florian, peut-être, on en parlait tout à l'heure, l'histoire d'avoir un multiple de 3 par rapport au coût de fabrication et au prix de
Ouais.
vente.
Ça, c'est un impératif industriel quand on se lance dans de la fabrication de produits. Si quand je vends mon produit, alors je parle hors taxe, hein, parce qu'en France, on a la TVA qui prend 20% au passage, mais hors taxe, il faut faire un x3. Si on n'arrive pas à faire un x3, c'est un échec industriel. Ça veut dire qu'on n'arrivera pas à financer son BFR, donc besoin de fonds de roulement, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour payer l'entreprise. On n'arrivera pas à se financer soi-même. et on n'arrivera pas à reproduire ce cycle de j'achète des matériaux, je construis, je vends, j'achète des matériaux, je construis, je vends, qui est finançable par les banques que si on est rentable. Donc il faut faire attention à ça. Notre rentabilité, elle est scrutée dans les moindres détails quand on va voir la banque pour un prêt. Si on n'est pas rentable, pas de prêt. C'est aussi simple que ça. Donc après, on a des organismes à côté qui sont la BPI. Ici, on est dans le sud-est, donc on a par exemple l'incubateur PACA Est. On a aussi l'UCA qui a une fondation et qui est très propice envers l'entrepreneuriat. Mais il faut se méfier de tous ces organismes-là qui aident. Donc c'est très bien, ça aide. Mais il faut bien se mettre dans la tête qu'une fois qu'ils sont plus là, c'est-à-dire au bout de 3-4 ans, eh ben, on est livré à soi-même et il faut être rentable. Parce que sinon, c'est l'échec.
Alors, c'est quoi qu'on peut vous souhaiter pour la suite? C'est de grossir? C'est quoi votre vision à long terme?
En fait, ça va être à long terme, c'est vraiment se développer sur la distribution. Aujourd'hui, on est en train d'en mettre de plus en plus dans certains magasins, soit les boutiques SFR de notre région, les boutiques spécialisées de sonvideo.com, et bientôt d'autres. En fait, l'objectif, nous, c'est de distribuer nos produits maintenant un peu partout dans l'Hexagone. Et en fait, sur la gamme B2C que vous voyez là, mais aussi sur la gamme B2B, on est en train d'en installer petit à petit. Et vraiment, pour nous, le but, c'est de pouvoir répandre un petit peu notre manière de faire, notre manière de ressentir l'audio un peu partout et d'avoir des gens qui sont satisfaits en fait d'avoir un produit de bonne qualité et made in France.
Super, un mot de la fin peut-être Florian pour clôturer.
On est au début d'une ère où on essaie de décentraliser les choses, on le voit avec la monnaie, on le voit avec même l'IA hein, qui utilise des serveurs partout dans le monde pour réussir à faire des calculs incroyables. Nous on applique la même chose à l'industrie finalement. Pourquoi pas décentraliser les bureaux de production? Ici on a un bureau pilote qui fait 30 mètres carrés. Mais demain, nous, et je pense qu'on peut nous le souhaiter aussi, c'est d'avoir un bureau le même que celui-là, mais à Paris, le même à New York, à San Francisco et en Chine. Et en fait, produire à l'échelle locale, là où il y a de la demande, pour que les gens puissent fonctionner vraiment en circuit court.
Super, merci à tous les deux et plein de succès pour French Acoustic, un nom made in France.